de nous taire, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir et soyez les bienvenus dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et ce soir, nous avons à la technique le retour de Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. C'était bien ces vacances ?
Oui, très bien.
Eh ben, c'est cool.
Et Fab au micro.
Bonsoir. Et Jean-Yves qui est malade et qui n'est pas là. Et on le salue, on lui fait des bisous, voilà, mais de loin, parce qu'il est malade. Donc voilà. Et donc bah, ce soir, si t'as pas d'envie d'entendre ma voix, bah, coupe l'émission. Parce que je vais être là pendant...
Parce que je parlerai pas.
Bah, Clara, elle veut pas. J'ai essayé, je lui ai dit, allez, parle et tout. Elle dit non, je parle pas. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, si tu veux nous joindre, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Tu as un blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie où tu tapes Radio Canu et tu cherches La Causerie. On est aussi sur Facebook, mais c'est juste pour faire de la promo. Et donc, préfère nous écrire par mail ou sur le blog. Et sinon, on est aussi sur tout ce qui est balado, diffusion, podcast. Tu vas sur ces outils joyeux et payants, souvent. Et tu tapes La Causerie Canu. Et tu devrais nous trouver. Voilà. Et bah, si tu ne nous trouves pas, d'ailleurs, bah, si tu es sympa, tu nous le signales parce que normalement, on devrait être sur toutes les plateformes de podcast. Donc, voilà. Mmh. Ah non, c'est cool s'ils peuvent nous le signaler. Non ?
Bon. Tout à fait.
Clara ne veut vraiment pas parler ce soir.
T'auras tenté.
J'essaye, hein, mais elle ne veut pas, oui. Bon. Alors, du coup, moi, j'avais envie de vous emmener balader dans le temps. Et donc, on va repartir du côté de la préhistoire. Sympa, non ?
Mmh.
Voilà, c'est plutôt cool. Bon, c'était il y a longtemps, mais bon. Alors, vous vous souvenez tous hein, de ce qui est dans les manuels scolaires, mais aussi dans la famille Pierre à Feu, parce que j'ai des références, moi, madame. Ce qu'affirme aussi Laurent Deutsch, pendant la préhistoire, la femme faisait le ménage dans la grotte pendant que l'homme allait courageusement chasser. Vous vous rappelez de ça ? Mmh. Et cette image, elle a quand même la vie dure. Alors, il y a un premier livre hein, qui était venu bousculer ça. Le livre s'appelait « L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes ». Et c'était de Marilène Patou-Matisse. Donc, c'est un livre qui est très documenté et il venait contredire cette image sexiste instaurée au 19e et 20e siècle par les mâles à la tête des chaires universitaires. Voilà, les chaires étant l'endroit où il y a un chamoine. Voilà. Mais il lui était reproché à ce livre de ne pas avoir été corrélé par une étude plus profonde. C'est un moyen de le discréditer ce livre, alors que l'autrice elle-même expliquait que son livre était une ouverture sur de nouvelles perspectives et pas du tout un point final. C'est l'occasion quand même pour moi de rappeler une énième fois que la science se construit, elle n'est jamais par affirmation définitive. Mais cela tombe bien, il y a une étude sur le sujet qui a été menée. Et non seulement elle corrobore ce qui est dans le livre de Marilène Patou-Matisse, mais en prime, elle va encore plus loin. Les femmes savaient en prime se passer des hommes pour chasser. Ouais. Alors on oserait donc menti. Ben oui. Alors les femmes chassaient, et même globalement elles chassaient plus que les hommes. Donc une étude américaine de grande ampleur a été menée sur les us et coutumes pendant la préhistoire. Cette étude a consisté à reprendre l'ensemble des données collectées ces 100 dernières années pour les étudier à nouveau et vérifier si l'affirmation « les femmes ne chassaient pas » était vraie. Donc c'est ce qu'on appelle une méta-étude. pour ceux qui ont suivi la causerie depuis quelque temps. Une équipe de l'université de Seattle s'y est donc collée et a publié ses résultats en juin 2023. Conclusion, les femmes chassaient dans près de 80% des sociétés anciennes, et quand dans la plupart de ces sociétés, quand elles chassaient, enfin quand il y avait de la chasse dans ces sociétés, dans la plupart d'entre elles chassaient plus que les hommes. Voilà. Pas mal hein, quand même par rapport à ce qu'on nous a appris. Alors, tout ça, ça vient de quoi ? Ben, ça vient du biais de genre, le fameux biais de genre. On peut se demander hein, toujours d'où ça vient, ce qu'on pense connaître, parce que nous, on nous a dit c'est le contraire tout le temps. Voilà. Et ben, ça vient tout simplement, hein, comme je disais, du biais de genre. Par exemple, quand un squelette enterré est découvert avec des outils de chasse, la première pensée est qu'il doit être celui d'un homme. Voilà. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que même quand c'est une femme qui fait la découverte du squelette, elle a comme premier réflexe de dire que ça devait être un homme. Pourquoi ? Parce que depuis des années, on dit bah, que les chasses, c'était l'homme. Donc, voilà, ouais, ça crée un biais. Vu que dans nos sociétés machistes, c'est l'homme qui bricole ou qui fait la guerre, on transcrit sur les sociétés du passé. Voilà. Mais les années 80, elles nous ont apporté l'analyse ADN pour connaître le sexe des fossiles. Et ça, ça a un peu tout changé. Et figurez-vous que cela a permis de s'apercevoir que souvent, il s'agissait d'une femme, en fait, ce squelette n'est pas du tout d'un homme. Exemple le plus connu, le fameux homme de menton, hein, dont moi, quand j'étais gamin, on a beaucoup parlé à l'école, l'homme de menton, qui avait été découvert en 1872, entouré d'offrandes. Depuis, il s'appelle la dame de Cavaillon, hein, parce que, une fois mieux analysé en 2016, il s'est avéré que c'était une femme. Voilà, et pas du tout un homme. Et encore, hein, ces analyses ont été retardées parce qu'il était affirmé que cela ne pouvait être qu'un homme. Donc, on a retardé le fait de faire l'analyse ADN pendant quasiment 15 ans. Parce qu'il ne fallait pas dédire ce qu'avait dit le chef, a priori, qui était lui-même un homme. Donc, voilà. Autre exemple, celui du travail de l'anthropologue Randall Haas, qui a démontré que sur 27 squelettes de chasseurs exhumés avec leurs armes en Amérique, 11 étaient des femmes, contrairement aux identifications premières qui avaient mis que des hommes. D'ailleurs, Randall Haas, il a une expression qui est assez marrante. Il dit c'est quand même étonnant que pendant des années, on ne se soit pas demandé où étaient passés les squelettes de femmes. Parce que si on les trouvait pas, c'est bien, on trouvait plein de squelettes avec des armes, mais du coup, personne ne s'est dit bah oui, mais du coup, on faisait quoi ? On n'enterrait pas les femmes ? Donc en fait, si le rite était funéraire aussi, donc il y avait. Elles étaient aussi enterrées, mais en l'occurrence elles étaient enterrées comme les hommes et donc avec leurs armes. Et ces erreurs elles perdurent. Hein. Récemment au Pérou, la découverte de restes humains enterrés il y a 9000 ans a donné lieu à un classement sexiste. Deux squelettes étaient entourés de pointes de lance et d'outils pour dépecer les grands mammifères. Donc immédiatement, les archéologues sur place imaginent que ce sont donc deux hommes. Voilà. Mais après l'analyse des ossements et de l'émail des dents, l'un des deux s'est révélé être une femme. Et c'était donc en fait plutôt un couple qui chassait ensemble. Voilà. Donc ça change, mais on voit qu'encore récemment, parce que cette découverte au Pérou, elle est de 2013-2014, donc on voit que c'est pas très très vieux, et elle a été finalisée en 2020. Donc on voit que jusqu'en 2020, on s'est pas trop posé la question dans le bon sens. Alors, ça va demander du coup à reprendre le travail, c'est un peu ça. Parce que c'est face à ces erreurs manifestes hein, que l'équipe de l'université de Seattle, elle a décidé donc de reprendre les données archéologiques et ethnologiques des 100 dernières années dans 63 populations. Alors, ils le disent eux-mêmes, pourquoi 63 ? Parce qu'il arrive un moment où ils n'avaient pas assez de bras pour faire plus, parce qu'ils auraient adoré faire un panel encore plus grand. Mais il y a un moment, quand vous reprenez des données, ça fait du boulot quand même. Hein. Donc voilà. Et ils ont pu tirer des conclusions que je donnais en fait au-dessus. Et même aller au-delà, par exemple, dans un tiers de ces sociétés, on a constaté que les femmes chassaient le gros gibier. Chose qu'on affirmait impossible, hein, je vous rappelle. Et uniquement les femmes. Donc les gros gibiers, c'était pour les dames. Voilà. Sur le continent américain, entre 30 et 50% des chasseurs de gros gibier étaient des femmes. Et ça, on le sait aujourd'hui par rapport aux squelettes qui ont été retrouvés, et surtout aux outils qui étaient retrouvés à côté des squelettes. Parce qu'on ne chasse pas le gros gibier avec les mêmes armes que quand on va chasse au lapin. Donc on est quand même loin de la femme qui reste au foyer, hein, quand même. Enfin, en l'occurrence, à la grotte. Alors, juste, je fais une parenthèse, les humains vivaient très peu dans les grottes, hein, contrairement à ce qu'on croit. Ils vivaient plutôt sur des excavations, mais pas tellement dans des grottes. Et aussi dans des maisons, s'ils savaient faire. Alors, autre découverte, là où la chasse était considérée comme la source d'alimentation la plus importante, donc c'est-à-dire là où elle avait la primauté sur toute autre forme d'alimentation. Je donne cet exemple parce que vous savez, c'est le fameux débat chasseur-cueilleur. En fait, toutes les civilisations ou ethnie de l'époque n'étaient pas que cueilleurs. Il y en a qui étaient plus chasseurs. Voilà. Donc dans ces sociétés-là, les femmes y participaient systématiquement, qu'elles soient mères ou non, et parfois même en emmenant avec elles leurs enfants dans le dos. Donc on a retrouvé en fait des squelettes de femmes blessées et tuées, enterrées avec leurs bébés, c'est-à-dire attachées dans le dos. Donc voilà, sûrement parce que les deux étaient morts pendant la chasse. Et on sait maintenant que les femmes régulaient les naissances avec l'allaitement pour avoir moins d'enfants et partir chasser. Oui, ça revient à laisser mourir de faim un nouveau-né. Bon, c'est cruel, ça peut paraître très cruel, mais n'oublions pas qu'on parle quand même de la préhistoire. Enfin, n'allez pas projeter vos visions du 21e siècle sur ce qui se passait 9000 ans avant la naissance de l'autre. Là. Voilà. Donc, il y a un rôle central dans la transmission des méthodes de chasse aussi qui a été déterminé par cette étude. Et ça, c'est quelque chose qui avait été bien occulté. Si les hommes ont des outils de chasse rudimentaires dans la majorité des populations étudiées, alors quand on dit outils de chasse rudimentaires, c'est des arcs, des flèches et des sagaies, hein, pour faire simple. Les femmes ont, elles, des outils plus complexes, plus stratégiques. Des filets, des couteaux, des appos, des lances longues et courtes. Donc les appos, c'est pour attirer l'animal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, je le dis, parce qu'en faisant une recherche là-dessus, il y a des scientifiques pendant des années qui s'étaient demandé ce qu'était une sorte d'outil en os qui était à côté d'un squelette qu'ils avaient retrouvé. Et en fait, ça faisait un drôle de son quand on soufflait dedans. Ils ont bien pensé que c'était un appos. Et a priori, c'était vraiment un appos, mais un appos soit à mammouth, soit à gros animaux. Mais ils se sont dit, tiens, c'est marrant, on n'a jamais imaginé. Parce qu'aujourd'hui, nous, on pense aux appos, c'est les oiseaux. Mais ils faisaient aussi des bruits de gros animaux ou des cerfs, voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait donc une tactique, des outils tactiques, voilà. Ce qui tend en fait à laisser penser que la stratégie de la chasse était donc plutôt féminine et que la transmission des techniques de chasse, plus complexes, était donc du fait des femmes qui devaient y compris former les hommes. C'est dingue, hein. Là, je pense qu'il y a des tas de réacs qui sont en PLS, qui nous écoutent, ils disent, on peut pas s'en remettre. En fait, on est quand même loin du cliché sexiste véhiculé depuis des siècles. En gros, ce que disent les scientifiques de l'université, c'est que sans les femmes, la chasse n'aurait pas pu se perpétuer. Tout simplement. Les chercheurs et chercheuses ont ainsi déterminé que les femmes utilisaient également des stratégies de chasse plus souples et moins bourrines que les hommes. Bourrines, c'est de moi, hein, c'est pas scientifique. Voilà. Une différence qui repose probablement sur des régimes d'entraînement différents, ainsi sans doute liés aux normes culturelles entourant la chasse. Selon les chercheurs et chercheuses de Seattle, les femmes chassaient davantage en équipe, alors que les hommes avaient tendance à partir plutôt seuls ou à deux. Elles chassaient avec différents partenaires, y compris leurs maris, d'autres femmes, des enfants, des chiens ou encore des fois seuls. En revanche, les hommes chassent principalement seuls ou avec un seul partenaire, généralement leur femme, ou avec un chien, mais jamais avec la femme et le chien. Voilà. Ce qui laisse à penser d'ailleurs que la sociabilité se faisait plutôt au travers des femmes que des hommes. Bah oui, c'est logique. Et surtout, ça laisse à penser que les gros gibiers étaient plutôt l'apanage des femmes que des hommes. Oui, parce qu'alors pour tuer un mammouth tout seul, c'était compliqué quand même. Faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait encore des gros mammouths, hein, et qu'on mangeait du mammouth ou des bisons. Et tuer un bison tout seul, avec une sagaie, c'est pas gagné. Voilà. Donc on y allait plutôt à plusieurs. Donc ces nouvelles découvertes sur les femmes chasseuses viennent exploser le traditionnel paradigme chasseur-homme-cueilleuse-femme qui a caché tout le rôle des femmes à la survie des sociétés préhistoriques. Ce nouveau cadre devrait permettre d'évaluer ou de réévaluer les découvertes archéologiques dans un contexte plus égalitaire. Et surtout, en fait, plus proche du réel. Parce que ce qui embête beaucoup les scientifiques aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est que ça fait des années qu'en fait, on fait du révisionnisme historique. C'est-à-dire qu'on modifie l'histoire telle qu'elle était. Alors que les preuves, on les a sous les yeux et qu'il aurait suffi quand même de se pencher sur les preuves et de commencer à arrêter de mettre dans les manuels scolaires ces fameuses trucs qui datent, vous savez, du début du siècle dernier, où on dessinait un mammouth, des hommes autour et les femmes qui étaient en train d'attendre à côté du feu pour cuire la viande. Voilà. C'est pas si simple. Et surtout, ça démontre quand même que nos sociétés patriarcales sont une construction plus récente qu'on le pense historiquement. Parce que souvent, vous savez, les tenants du patriarcat, ils vous disent « ça a toujours été comme ça, c'est immuable ». Bah, a priori, non. Donc, voilà. Et que le patriarcat se maintient aussi en tentant finalement de réécrire le passé. C'est ce qui ressort de tout cela. Les mâles ne pouvaient pas au 19e, et mâles humains, hein, bien sûr, ne pouvaient pas au 19e et 20e siècle accepter le réel qui venait finalement désinguer leur vision du monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en train d'instaurer un système patriarcal machiste, il est compliqué de vous dire que finalement, s'il n'y avait pas eu les femmes, il n'y aurait peut-être pas eu de survie de l'espèce humaine parce que la chasse ne serait pas transmise. C'est un peu compliqué, vous voyez. Donc on réécrit l'histoire vite fait, on explique que c'est les hommes qui... D'ailleurs, il y a une étude, je le dis, parce qu'elle est suédoise, qui a démontré, par exemple, qu'il y avait moins de différence entre les hommes et les femmes d'un point de vue de la morphologie pendant la préhistoire qu'aujourd'hui. Et en fait, il explique par le fait qu'il y aurait peut-être une sélection génétique qui s'est faite au fil du temps, parce qu'on aurait moins nourri les femmes que les hommes, par machisme. Voilà. Donc il est très positif de voir hein, quand même que la science peut être corrigée, contrairement aux livres saints et autres. Et surtout, c'est vachement intéressant de voir qu'aujourd'hui, eh ben, grâce notamment à la pluridisciplinarité... Oula, je ne vais pas arriver à le dire ça, je vais essayer de la refaire. La pluridisciplinarité, c'est-à-dire le mélange entre l'archéologie, par exemple, l'ethnologie, mais aussi les études de l'ADN et aussi les études scientifiques de datation, tout ça, on peut affiner nos connaissances sur le passé, affiner nos connaissances sur notre histoire, et la préhistoire fait partie de notre histoire, même si, là aussi, le terme de préhistoire est aussi un préconçu qui date du 19e siècle et que beaucoup aujourd'hui de scientifiques et d'archéologues et notamment et de voilà commencent à dire en fait c'est complètement idiot parce que l'histoire avait déjà commencé. On n'était pas avant l'histoire. Voilà, donc c'est ça aussi c'est un paradigme qu'il va falloir modifier, changer. Et on voit que c'est très intéressant et c'est surtout moi je vous invite vraiment à vous pencher sur ces questions-là parce qu'elles sont passionnantes. Voilà. On met un peu de musique.
Oui.
Ça va secouer. j'ai pas remis mon casque et tout, oh là là. Je suis à côté de la plaque, pardon. Et oui, c'est toujours la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et c'était la petite fumée avec le titre Cypher. Voilà, il faut que j'enlève mon téléphone d'à côté de mon micro. Ça va vachement mieux se marcher. Voilà, et donc c'était, j'aime beaucoup ce groupe, la petite fumée. Il faut surtout les voir en live, a priori, parce que ça dépote bien, comme on a pu l'entendre. Et ils sont vachement sympas. Voilà, moi je les suis sur les réseaux, comme on dit maintenant. Et je trouve qu'en plus, ils ont une bonne, bonne énergie. Non ?
Oui, ça dépote. J'aime bien.
Ah, j'embête Clara parce que je l'ai fait
oui,
parler à tout prix.
Oui, tu m'embêtes un peu. Mais... Donc voilà, vas-y, mais continue de parler et parle-nous d'un film qui fait parler de lui en ce moment.
Comment tu m'as expédié ça? Voilà, demandez à Clara de vous faire des transitions. Elle vous fait ça sans problème.
Voilà.
Voilà. Mais heureusement, elle n'a pas de machette. Alors donc du coup, je voulais effectivement vous parler ce soir d'un phénomène cinématographique, celui qui est appelé le phénomène cinématographique de l'été, voilà, parce qu'on aime bien les superlatifs, c'est le film Barbie. Voilà, ça peut surprendre, mais c'est ça. Pas en tant qu'objet filmique, hein, mais aussi ce qui peut l'entourer, et finalement de l'outil hein, qu'il représente dans une industrie capitaliste du divertissement, parce qu'il ne faudrait pas oublier que tout ça, derrière, il y a un petit peu des histoires de pognon. Alors le film, on va commencer par lui, hein, Barbie, c'est une coproduction britannico-états-unienne, et autant le dire tout de suite, le plus gros pourvoyeur en termes de pognon, c'est Mattel, c'est-à-dire la marque qui détient la poupée. Hein, voilà. Il est réalisé par Greta Gerwig, à qui on doit l'excellent Lady Bird, hein, si vous ne l'avez pas vu, et qui a, selon ses dires, bataillé pour imposer des idées dans le film et en modifier le message initial. Voilà. Pourquoi je dis selon ses dires? Oui, parce que voilà, c'est que moi je pense qu'il y a toujours un peu de marketing dans tout, et c'est un peu aussi facile de dire j'ai dû beaucoup batailler pour voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc c'est à prendre aussi avec des pincettes, je pense, ce genre d'affirmation. Donc Barbie, elle est incarnée par l'immense Margot Robbie, qu'on présente plus. Hein, on a pu la voir dans Le Loup de Wall Street, Once Upon a Time in Hollywood, Les Deux Suicide Squad, dans Babylon, etc., etc. C'est une excellente et très très bonne actrice, et elle tient le rôle à merveille de cette Barbie, la fameuse Barbie, bah Barbie. Voilà, c'est-à-dire Barbie stéréotypée. Voilà, c'est son rôle. Ken, lui, est Ken stéréotypé en l'occurrence aussi, parce que c'est leur nom, est incarné par Ryan Gosling, qui trouve ici toute la latitude pour faire exposer son talent comique. Oui, il n'est pas qu'un corps. Voilà, je reprends une citation du film. On retrouve aussi Emma McKay, Connor Swiddles et Nguti Gdawa, que vous avez pu voir dans l'excellente série Sex Education, ou encore Simu Liu, que vous avez pu voir dans Shang-Chi, ou Nora from Queens, qui est une série Awkwafina Nora from Queens que je vous conseille. J'en reparlerai sûrement dans la causerie. Donc, en héroïne humaine, on a aussi America Ferreira, qui apporte une belle touche de profondeur, tout comme celle qui joue sa fille Ariana Greenblatt, et on notera la prestation complètement folle de Kate McKinnon. Alors Kate McKinnon, pour ceux qui comme moi regardent le SNL, vous savez qui c'est et vous l'adorez, en Barbie bizarre, et de Will Ferrell en PDG de Mattel. Voilà, donc ça fait quand même un beau panel de gens qui savent jouer. Donc c'est plutôt bien fait. Mais de quoi ça parle en fait Barbie? Bah Barbie, enfin les Barbie vivent dans Barbieland, hein, évidemment, parce que où vivrait Barbie à part dans Barbieland avec les Ken. Elles y sont heureuses et insouciantes dans ce monde où les femmes peuvent être ce qu'elles veulent et où les hommes sont leur faire-valoir permanent. Mais un jour, sans comprendre pourquoi, la Barbie stéréotypée se retrouve à avoir des idées sombres. Et s'il fallait, pour comprendre d'où cela vient, passer dans le monde réel. Voilà, ça c'est le pitch de Barbie. C'est un pitch barré plutôt, qui tient bien le film, et au final c'est une confrontation entre le monde idéal pour les femmes et le patriarcat de notre monde. Voilà, on va dire ça un petit peu à la va-vite. Mais est-ce que du coup ça en fait un film féministe? C'est une bonne question quand même, hein. Alors bon, les ligues d'extrême droite et les réactionnaires s'étouffent depuis la sortie du film, car il serait un film woke et qui cherche à tuer nos valeurs. Bon, alors on va se rassurer, parce que La Petite Sirène, c'était déjà un film woke qui devait tuer nos valeurs. Star Wars, c'était déjà woke, ça devait tuer nos valeurs. Les séries Star Trek aussi. Bref, c'est des réactionnaires. Jusque-là, tout va bien. Dès qu'ils voient un personnage qui n'est pas blanc ou une sexualité qui n'est pas hétéro, ça les défrise. Bon. Ce qui d'ailleurs l'a fait, par contre, le film interdire dans plusieurs pays, soit car jugé trop féministe, comme pour le Koweït, par exemple, soit parce qu'une carte contenue dans le film trace des frontières qui ne collent pas au réel et semble donner raison à la Chine sur ses envies de récupérer Taïwan et compagnie. Ce qui, d'ailleurs, pour un film qui vise le marché chinois, n'est sans doute pas anodin. Voilà, et ça, c'est un petit peu dérangeant. Bref. Alors, est-ce qu'on est face à un brûlot féministe de grande ampleur qui révolutionnerait tout, comme ça nous est vendu, hein, vous savez, sur les affiches du film, si vous les avez déjà vues. Il écrit hein, quand même, noir sur blanc, le film le plus féministe de l'année. Voilà, c'est pareil, c'est vendeur. Quoi. Alors honnêtement, non, hein, on va être très clair. Certes, on va pas bouder notre plaisir hein, de voir le mot patriarcat devenir un sujet dans un blockbuster de l'été. Vraiment, c'est plutôt intéressant. Le film hein, vient d'ailleurs de dépasser le milliard de dollars en exploitation. Et de ce fait, c'est le film le premier réalisé par une femme à atteindre cette somme. C'est le premier film réalisé par une femme, pardon, à atteindre la somme d'un milliard de dollars en exploitation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais autant ne pas non plus se mentir, l'objet reste quand même très calibré et les limites de son féminisme sont bloquées aux limites acceptables pour Mattel, qui est le producteur du film. Voilà. Alors ne nous y trompons pas, le film il est quand même drôle, on passe un super bon moment. Vraiment, moi je l'ai vu, hein, je peux le dire. On s'éclate à voir des scènes totalement improbables arriver. Et en prime, on rit de bon cœur, vu que les dialogues sont quand même souvent très bons. L'humour allant de l'humour camp, limite drag queen, à l'humour le plus lourd, le plus assumé. Et ça ravit finalement un public assez large. Sans doute d'ailleurs, une relecture légèrement marketée est à l'origine de cette diversité-là aussi. On va pas non plus jouer les candides et se dire que tout est arrivé par hasard. Hein, voilà. Mais sur le féminisme, on va quand même pas crier à la révolution. On est sur les bases minimales du féminisme et assez loin de l'empowerment que l'on pourrait attendre d'un tel film, clairement. Un féminisme, certes, qui fait du bien dans le contexte actuel, on va pas non plus se mentir, mais qui répond vraiment aussi aux attentes d'un capitalisme normatif. Donc, il y a quand même une sorte de double langage assez, assez gênant. Par moment. Comme l'ont souligné plusieurs penseuses, autrices, philosophes et militantes, on sent que derrière tout cela se trouve quand même Mattel et que le cahier des charges, même si Gerwig a réussi à pousser le plus loin possible les limites, selon ce qu'elle disait, ça reste quand même assez serré. Du coup, pas de Barbie vraiment sans Ken, voilà, donc c'est déjà un petit peu gênant. Pas non plus de Barbie lesbienne, a priori ça n'existe pas. Pas de Barbie femme célibataire et contente de l'être, hein, elle cherchera toujours avec qui continuer et construire sa vie. Donc on est quand même dans du très très normatif, pas en plus se mentir. Mais surtout, pas de représentation de Barbie impossible à commercialiser ensuite pour Mattel. Genre on n'a pas de Barbie tueuse en série. C'est dommage. Ça pourrait exister. Je dis ça, c'était une plaisanterie quand je dis pas voilà. Mais par exemple, on aurait pu. Alors là, par contre, je suis assez sérieux. On aurait pu avoir une Barbie légèrement SM, par exemple. Vous voyez ? C'est un film qui est quand même plutôt destiné aux ados adultes. Hein. Donc, on aurait pu quand même imaginer des choses un peu plus, on va dire, underground ou moins mainstream. Mais clairement, Mattel, fallait qu'il puisse vendre la poupée derrière. Hein. Donc, non. D'ailleurs, ça marche, hein, parce que Mattel vient de sortir une collection de Barbie pour adultes. Oui, ils ont peur de rien. Oui, parce qu'il paraît que les gens, ils avaient du mal à aller acheter la Barbie dans le rayon enfant pour eux. Donc, ils ont fait un rayon adulte. Mais c'est les mêmes, hein. Il y a juste le packaging qui change. Voilà. Et cela cartonne, ce qui est quand même un petit peu se poser des questions. Les ventes sont estimées à plusieurs dizaines de millions, je répète, plusieurs dizaines de millions de dollars dans le monde. Le film est sorti il y a 5 semaines. Ils ont déjà vendu pour des dizaines de millions de dollars de poupées pour adultes dans le monde. Alors, attention, quand je dis poupées pour adultes, c'est des Barbies. Ce n'est pas une poupée sexuelle pour adultes. Rien à voir. Voilà. Alors oui, c'est cool hein, que les spectatrices et spectateurs puissent voir un film qui prône un humanisme fort et une forme de féminisme même minimale. Mais moi, j'aurais aimé hein, que ça aille quand même bien plus loin que ce à quoi ça se cantonne. Même si, encore une fois, ça ne fait pas de mal. C'est paradoxal, peut-être, ce que je dis. Mais ça fait pas de mal que ça soit comme ça. Mais d'un autre côté, on se dit merde. Hein, enfin, peut-être mon côté militant. Mais je me suis dit, ça s'arrête quand même un petit peu là où ça aurait dû commencer. Ouais, c'est un peu le truc. Voilà. Mais ce qui m'a le plus gêné dans le film, c'est que Mattel is back. Voilà. Ben oui, la société Mattel est de retour. Un point quand même, hein, qui transpire hein, quand même globalement dans le film, c'est que l'on sent malgré tout un très très fort storytelling de la part. Alors storytelling, je vous rappelle, c'est l'art de raconter une histoire autour d'une marque, de la part de Mattel qui cherche à changer son image pour nous pour mieux nous faire avaler ses choix passés. Voilà. Que ce soit les choix de normalisation des femmes au travers de sa poupée, hein, parce qu'on va quand même pas non plus nier que Barbie. C'était quand même pas le truc idéal pour s'identifier, hein. Surtout à l'époque, si vous étiez pas blanc, ou pas blanche. Ou surtout si vous étiez pas mince. Et surtout si vous n'aviez pas des jambes impossibles à exister dans la vraie vie. Parce que Barbie a des jambes trop longues. Voilà, c'est comme ça. Si elle existait vraiment, elle pourrait pas plier les genoux. Bon, bah, voilà. Donc faut croire, hein, quand même, d'après ma tête et d'après le film, que les Barbie pouvaient tout faire depuis la création de Barbie. Donc ils essayent de nous faire croire ça, mais c'est faux. Parce qu'on rappellera quand même qu'il a fallu attendre la fin des années 80, voire le début des années 90, pour que cela devienne possible et que des métiers apparaissent comme Barbie avocate ou Barbie médecin. Avant, Barbie, elle était femme au foyer quand même, hein, je vous le rappelle. Hein, ou hôtesse de l'air. C'était un peu au choix. Et il y avait sa sœur qui, elle, Skipper, qui, elle, avait le droit d'aller faire des études, mais uniquement pour aller apprendre à faire des dessins pour des robes. Voilà. Oui, on peut pas dire qu'on était dans un féminisme échevelé. Mais bon, c'est, voilà. Mais là, dans le film, on essaye un petit peu de nous faire croire que Barbie a toujours pu tout faire depuis sa création, c'était en 1954. Bah, pas vraiment. Ou encore, d'ailleurs, le fait que la firme a eu plusieurs procès pour non-paiement de ses impôts. Alors là, ils arrivent à en rire dans le film, pourquoi pas, après tout. Mais aussi par rapport aux conditions de travail dans ces usines. Et là, paradoxalement, il n'y en a pas une seule. Ça ne parle pas du tout dans le film. C'est-à-dire que, autant ils nous parlent bien qu'ils n'ont pas payé leurs impôts et que ce n'était pas bien, autant les conditions de travail dans les usines Barbie et Mattel, oublié, ça a disparu. Voilà. Bon, c'est l'aspect, moi, qui m'a un peu dérangé dans ce film et qui, pourtant, je le redis, c'est un bon film, il est agréable à regarder. Alors je dirais pas hein, qu'il faut pas aller voir Barbie, c'est pas du tout mon propos. C'est fun et c'est sympa, mais je pouvais pas quand même passer sous silence ces deux points hein, qui me dérangeaient quand même un peu, c'est-à-dire cette surexploitation du féminisme d'un côté et de l'autre côté cette réhabilitation de Mattel qui est pas très très fine quand même globalement. Et ça c'est un peu gênant. Et je vais juste rajouter deux petits points. Pas sur Barbie, mais sur le cinéma, parce que j'en profite. Voilà, c'est que en ce moment, juste pour votre information, il y a deux films qui viennent de recevoir des prix, qui sont des films iraniens et qui pour l'instant n'ont pas de distributeur en France. Alors j'ai plus les titres des films, pardon, parce que en plus je parle très très mal le persan, donc je vois. Mais et ces films, en fait, si vous voulez qu'ils soient diffusés, il va falloir les soutenir. Et alors il y a un truc très bête, mais aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Et allez liker les pages de ces films parce que il faut donner envie aux distributeurs de les distribuer. Ouais, c'est toujours le même truc. Alors c'est très cool hein, que Barbie ait une grande distribution, mais il y a Mattel derrière, donc ça facilite un peu les choses. Ce serait bien qu'il y ait des films qui racontent ce qui se passe en ce moment en Iran, qui aient une visibilité autre que dans les salles d'arrêt essai et qui puissent atteindre peut-être des multiplexes ou des choses comme ça, des cinémas où la majorité des gens vont, et pas uniquement les cinémas des cinéphiles, même si j'ai rien contre les cinémas des cinéphiles, j'y vais. Mais juste à un moment donné, c'est bien quand on peut avoir un accès plus large. Donc voilà. Je voulais juste ajouter ça avant qu'on démarre la musique un petit peu en mode swing, non, un Beach Boy des années 50.
Everywhere.
pas gentil, Clara. Elle voulait remonter les micros pour que vous m'entendiez chanter. Mais elle vous a évité ça. Vous êtes toujours dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et c'était donc le post-moderne jukebox qui reprenait le titre d'Aqua, Barbie Girl, en mode surfeur années 50, un peu 50-60, les Beach Boys, tout ça, voilà. C'est sympa. Ouais, ça change. Mmh. Un petit côté, ouais, un petit peu. On avait presque envie de chanter. Ce que j'ai fait d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc, bon allez, on va passer au bref. Et oui, ce sera une émission très courte hein, ce soir, hein, pardon, mais c'est comme ça quand je suis tout seul et que je n'ai pas eu le temps de prévoir l'émission plus large. Voilà, mais on choisit pas de tomber malade. Hein. Donc voilà. Donc je vais vous parler d'abord de la première chose dont je voulais vous parler, c'est de la canicule, mais pas pour vous dire protégez-vous, buvez, mais plutôt pour vous dire que attention, il y a des gens qui sont dehors aujourd'hui, ils ont besoin de flotte et malheureusement, il y a plein d'endroits où vous savez, comment on appelle ça, les machins publics, là, les fontaines publiques ont été coupées pour dire il faut couper les fontaines parce qu'on manque d'eau. Ok. Sauf que les gens qui vivent dehors, ils ont besoin des fontaines pour avoir de l'eau. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. Donc du coup, il y a plusieurs associations qui appellent à une chose toute bête. C'est même si, comme ils disent, c'est une aberration écologique, mais qu'à un moment donné, il faut sauver des vies. Et ben, c'est d'acheter des bouteilles en plastique ou en voilà pour d'eau pour les gens qui vivent dehors, parce qu'en fait, c'est leur seule source aujourd'hui de flotte et que ben sans eau, on meurt tout simplement. Et quand il fait 35 degrés, il faut boire au moins 2,5 litres d'eau dans la journée. Donc ben, ça manquera pas hein, d'avoir un pack d'eau. Donc voilà. Donc je voulais juste passer l'info parce que j'ai vu qu'il y avait les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique et un autre, mais j'ai perdu son nom, qui faisait l'appel, cet appel-là, en disant bah, il y a un geste que vous pouvez faire qui est assez simple à faire. C'est alors bien sûr aller demander aux personnes si elles en ont besoin, hein, parce que s'ils ont déjà des packs d'eau, ils vont pas avoir 22 packs d'eau, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà. Mais par contre, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un réel problème. Et oui, d'un côté on manque d'eau, il faut couper les fontaines, puis de l'autre côté ben il y a des gens qui ont besoin des fontaines pour l'eau, voilà. Donc ça se résout, c'est une équation à deux inconnus, mais voilà. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais vous parler d'un festival dont j'avais parlé l'année dernière qui s'appelle les Digitales, mais qui se tient à Montreuil. Voilà, alors je sais c'est loin Montreuil, mais bon, c'est comme c'est du 24 au 27 août, vous aurez le temps de vous organiser si vous voulez monter. Donc je vais vous lire simplement les deux paragraphes d'accroche. Donc c'est cet été, tandis que la sécheresse sévit partout, que le pays croule sous le soleil de plomb et les coups de matraque, on te donne rendez-vous à la Baudière pour la défendre et maintenir l'espoir. Les Digitales reviennent et c'est bien un vent de fraîcheur qui va tout balayer pour cette troisième édition qui se tiendra du 24 au 27 août 2023 à La Baudière, donc, et c'est à Montreuil. Le convoi de l'eau organisé par la Confédération Paysanne et Bassine Non Merci, j'arrive pas à lire ça, hein, qui part de Sainte-Soline pour arriver le 26 août à Paris, sera de passage pendant l'événement entre le 24 et le 27. Donc je rappelle que les Digitales, c'est un festival d'écologie vénéneuse, radicale et surtout anarchiste, dont on fête aujourd'hui la troisième édition. Le temps d'un week-end politique, festif et autogéré, les copines et copains, pardon, des collectifs et des luttes de plein d'horizons différents se rencontrent à La Baudière, à Montreuil. Les deux premières éditions nous ont permis de nouer des liens précieux et de faire émerger de nouvelles possibilités. Elles ont par exemple contribué à faire éclore dans nos milieux militants les questions d'écologie queer et d'organiser la riposte contre les écologies fascistes. Voilà, donc bah, je vous laisserai aller lire sur rebellion.info la suite. Mais voilà, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le blog La Baudière. .noblog.org. Voilà, et si vous avez des questions, c'est à lesdigitales avec un S, ES à la fin, @riseup.net. Et sinon, le squat de La Baudière, il est 65 bis rue Voltaire à Montreuil, 9300. Voilà, mais c'est vraiment une initiative très intéressante. Donc voilà, j'avais envie d'en parler quand même, même si c'est pas sur Lyon. Mais voilà. Et maintenant, je vous annonce le moment triste de cette soirée. Et oui, la causerie va s'arrêter. Voilà. Pas définitivement, hein. Ça s'arrêtait 15 jours. Donc nous reviendrons le 3 septembre, pour tout vous dire, à 22h. Voilà, et d'ici là, on va essayer nous de prendre un peu de repos, parce que c'est pas mal. Alors bon, Clara, c'est déjà fait. Hein. On sait, ne me regarde pas comme ça.
Je vais le refaire, c'est pas un souci.
Toi, tu vas le refaire. C'est re-bien de reprendre du repos. Oui. Donc voilà. Et donc du coup... Donc,
si je suis obligé... Hein.
Ah non, mais tu peux venir faire une émission. Non, c'est, hein. Tu sais, la porte est ouverte. Hein. Tu as le droit de venir faire une causerie, hein, pas de souci. Mais ça risque d'être très court si tu te contentes de faire ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire bonjour et au revoir. Mais choisis des musiques. Elle me maudit, vous verriez son regard. Donc, voilà. Bon, tout ça pour dire que donc, du coup, nous, on revient le 3 septembre à 22h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions, les 490e, 10 émissions d'avant et les 491e que je mettrai demain en ligne sur le blog de la causerie à blogs.radiocanu.org/la causerie. On le redit, si vous êtes un collectif, si vous êtes un artiste ou une artiste, si vous êtes une association, si vous faites de l'art, je viens déjà de le dire. Enfin, si vous avez envie de présenter ce que vous faites et que vous dites tiens, je viendrais bien causer avec les causeurs et causeuses de la causerie, eh ben c'est pas compliqué. Vous nous écrivez à lacauseriecanu@gmail.com. On en discute. Si ça matche entre nous, il n'y a pas de souci. On se fera une petite émission avec plaisir. Voilà. Et donc du coup, on va se quitter en musique avec.
J'arrive pas à te relire.
Avec Tracy de Sa et Rickshaw. Voilà. Et Tracy de Sa, c'est une artiste que je vous invite vraiment à écouter. C'est très puissant. Et là, c'est vraiment féministe. Voilà. Plus que Barbie. Voilà. Allez, bah, à dans 15 jours. Rendez-vous le 3 septembre à 22h. On vous fait des bisous et à bientôt.
Ciao, ciao.
Doubts you trigger, felt like I was the universe. So wait, please could you come nearer? When I come on, don't deny me. Where you need me, you will find me. Yes, I owe you, don't remind me. I got mixed feelings behind me. I pack my belongings, my treasures and my fears. It's time to make this place I let the more than a souvenir. Now I fit into the drink, so I'm not alone. No. I'm about to ride a rickshaw coming home. Now I fit into the drink, so I'm not alone. No. I'm about to ride a rickshaw coming home. Never thought I'd do it, still I'm standing at your door. I love the little that I know, but I still need to learn more. And you ain't perfect, and I know that that respect that I'm the norm. Patient bones that found the heart, giving love to a robot. So I'm about to take it fast style. No one can rewind and make up for the last time. Think about my sense, find your lessons on my grind. Do a rookie chance, somewhere different on my spine. It was hard when they reached the part. Something I've been missing, you were my counterpart. Turned it against parts, didn't know if I was smart. Not landing in the dark, really standing on my marks. You can blame what we're done in 1992. The conflicts at this country deal wasn't all the new. I never left, I saw others came back to you. If I could, I'd chosen a priest, Stacy Malibu.